16h30 à Paris, une heure de moins en temps universel, l'actualité africaine avec Simon Bourtembeau. Bonjour Simon.
Bonjour Clotilde, bonjour à toutes et à tous. Afrique Midi est le journal pour commencer. Pas de dialogue direct avec le M23 soutenu par le Rwanda. Félix Tshisekedi l'a martelé hier devant les élus de sa coalition. Le président congolais dit vouloir engager une refonte totale de l'armée face à la situation dans l'est du pays. L'ombre de la guerre qui plane sur le tour cycliste du Rwanda. Le peloton qui se lance aujourd'hui passera cette semaine à seulement quelques centaines de mètres de la frontière congolaise. Une équipe belge a d'ailleurs décidé de se retirer de la course par crainte pour la sécurité de ses coureurs et de son staff. À la une également dans Afrique Midi, le Soudan, alors que la guerre fait rage, les paramilitaires du général Emeti et leurs alliés ont signé une charte fondatrice d'un gouvernement parallèle. Dans cette édition, nous serons également à Ouagadougou. Ouagadougou où Ibrahim Traoré et Mahamat Idriss Déby étaient réunis hier en marge de la 29e édition du FESPACO. Et puis, le festival Abidjan, capitale du rire, c'est aussi ce week-end, cette fois dans la capitale ivoirienne. Dr Kevin recevra notamment cet après-midi son prix RFI Talent du rire 2024. Félix Tshisekedi rejette donc à nouveau le dialogue direct avec le M23. Le président congolais assure qu'il va réorganiser son armée de manière bien plus professionnelle pour tenter de stopper les avancées des rebelles soutenus par le voisin rwandais. Hier, donc, le chef d'État faisait face aux députés et aux sénateurs de sa coalition. Alors que les églises catholiques et protestantes sont-elles favorables à des discussions, Félix Tshisekedi reste, lui, campé sur ses positions. Pas de dialogue avec le groupe armé qu'il a de nouveau qualifié de pantin du Rwanda. Depuis Kinshasa, la correspondance de Coralie Pierret.
Face à l'avancée du M23 appuyée par l'armée rwandaise dans l'est du pays, le chef de l'État s'est dit déçu de l'Union sacrée. Il a déploré devant les caciques de sa coalition réunie hier à Kinshasa le quasi-silence de la majorité présidentielle, tout en saluant les quelques initiatives politiques soutenant l'enrôlement des jeunes dans l'armée pour défendre le pays. Le président envisage des changements dans la direction de l'Union sacrée et la formation d'un gouvernement d'union nationale. Concernant le dialogue avec le M23, Félix Tshisekedi a campé sur ses positions. « Ce serait nous humilier », a-t-il déclaré, tout en reconnaissant des trahisons au sein de l'armée congolaise, qui explique en partie les résultats sur le terrain. « Mais c'est fini », assure-t-il, en promettant une refonte totale de l'armée. De son côté, le ministre des Affaires étrangères rwandais accuse sur le réseau social X le président Tshisekedi de tenir un double langage à propos d'une négociation avec le M23. Coralie Pierret, Kinshasa, RFI.
La guerre dans l'Est congolais et un calme précaire ce dimanche sur les différentes lignes de front. Aucun combat nouveau ont été signalés entre le M23 appuyé par l'armée rwandaise et l'armée congolaise appuyée par les milices pro-gouvernementales, ni dans le Sud Kivu, ni dans le Lubero. Au nord de cette zone, sur invitation de Kinshasa, les militaires ougandais ont renforcé leur présence ces derniers jours. Et c'est dans ce contexte donc toujours tendu que démarre aujourd'hui à Kigali le Tour cycliste du Rwanda. La 17e édition de la course prévoit notamment 3 jours dans la zone de la frontière avec la RDC. Alors sur les 15 formations internationales invitées, une seule a choisi de ne pas faire le déplacement et ce pour des raisons de sécurité. On ne constate donc pas de boycott alors que les événements et les partenariats sportifs font partie intégrante de la stratégie diplomatique du Rwanda. De son côté, la RDC tente justement de faire pression sur Arsenal, le PSG ou encore la Fédération internationale automobile pour qu'ils mettent un terme à leur collaboration avec Kigali. La réponse du gouvernement rwandais n'a pas tardé, Lucie Mouillot.
Selon le porte-parole adjoint du gouvernement rwandais, Alain Mukuralinda, Kigali rejette la politisation par Kinshasa de ses partenariats sportifs avec différents clubs de football ou organisations, comme l'Union cycliste internationale ou la NBA.
Les efforts du gouvernement de la RDC à saper ces collaborations, je dirais qu'ils déforment la vérité. Cette façon de faire, de toute façon, ne va pas résoudre les problèmes d'insécurité qui se posent dans la région. C'est une façon de fuir ses responsabilités, c'est un manque de volonté politique au lieu de résoudre des problèmes qui lui sont posés par sa propre population. Aujourd'hui, on ne comprend même pas.
À ce jour, selon le porte-parole, aucun partenaire sportif du Rwanda n'a remis en cause sa collaboration avec Kigali, même si des discussions ont été engagées suite aux lettres reçues de la part du gouvernement congolais.
Je ne pense pas qu'il y ait des risques parce que les partenaires, eux aussi, ils vont poser des questions. quitte à venir sur le terrain pour voir ce qui se passe d'abord au Rwanda concernant la sécurité, parce que c'est le plus important. Donc je me dis que si ces partenaires prennent la peine de vérifier les demandes des FARDC, sûrement qu'ils vont trouver que c'est déséquilibré et que donc il n'y a pas de menace à ce que les partenariats s'arrêtent.
Sur le plan diplomatique, cette semaine, des ambassadeurs du Rwanda ont été convoqués par les gouvernements britanniques et allemands ainsi que l'Union européenne qui condamnent dans des communiqués les avancées du groupe armé du M23 et demandent le retrait des troupes rwandaises du territoire congolais. Lucie Mouyo, Kigali, RFI.
Un huis clos justifié par le contexte sécuritaire dans l'est de la RDC. Le plus grand derby de la ville de Lubumbashi, c'est dans moins d'une demi-heure. Et alors que le match aller s'était tenu en octobre dernier, les supporters sont forcément déçus de se voir une nouvelle fois privés de cette rencontre entre le TP Mazembe, actuel leader du groupe A, et Lupopo, son dauphin. Même sans supporters dans les gradins pour sécuriser le match, la mairie a déboursé quelques 69 millions de francs congolais, soit plus de 25 000 dollars. À Lubumbashi, Pascal Mwangala.
Pour la mairie, cette mesure vise à prévenir des éventuels débordements dans un contexte politique particulièrement tendu en RDC. Elle donne pour exemple des chants exécutés en faveur du M23 au stade de Kibasa de la Kenya dimanche dernier lors d'un autre derby. Ce qui désole Jean-Claude Amondi, un fan de Lupopo.
C'est juste pour animer un peu l'ambiance du stade, mais que la politique en prenne comme prétexte pour que le match se joue à huis clos, c'est dommage.
Même sentiment pour Alain Moutach, un fan de Mazembe, qui espérait être témoin privilégié du premier derby des jeunes corbeaux enrôlés par le coach Lamine Ndiaye cette saison.
Nous avons des jeunes, talentueux d'ailleurs, qui sont en train de monter en puissance. Dans notre stade, en tout cas, on allait vivre une très grande rencontre, mais malheureusement, on n'en peut rien.
Occasion pour Alexis Kiansa, vice-président de la coordination des supporters de Mazembe, d'appeler les leurs à la communion d'esprit.
Mais nous demandons aux supporters de tout-puissant Mazembe Anglebert de suivre les matchs à la télévision en union de prière.
Toutefois, l'ambiance électrique que provoque souvent le plus grand derby de la ville va manquer à l'appel. Pascal Mwangala, Lubumbashi, RFI.
Et c'est donc dans un stade vide que le TP Mazembe et Lupopo s'affronteront maintenant dans un peu plus de 20 minutes. Au Soudan, les paramilitaires des FSR et leurs alliés signent un accord en vue de la formation d'un gouvernement parallèle à celui du général Al-Burhan. La charte a été signée dans la nuit lors d'une réunion qui s'est tenue à huis clos à Nairobi à l'initiative du général Emeti, commandant des forces de soutien rapide. 24 organisations de la société civile, groupes armés et partis politiques ont donc signé hier cette charte fondatrice du projet. Gaël Lalex.
Parmi les signataires d'importance se trouve le parti Ouma, le mouvement Justice et Égalité, ancien membre de la coalition civile Takadoum, et surtout le SPLM Nord, puissant groupe armé du sud du pays. Ce que nous avons accompli hier incarne l'espoir de millions de Soudanais. S'enthousiasme ce matin Ahmed Tugod, secrétaire général du mouvement Justice et Égalité. Pour lui, ce nouveau gouvernement représente l'unique solution pour une sortie de crise, car il modifie de facto la situation politique du pays. Les négociations du texte n'ont pas été un long fleuve tranquille. Ce n'est qu'à 1h30 du matin, dans le secret, que la charte a fini par être signée. C'est un processus politique, rassure Ahmed Tugod, chaque détail devait être réglé. Parmi les points d'achoppement, la question notamment de la laïcité, condition sine qua non à l'adhésion du SPLM Nord. Le texte prévoit au final que le Soudan soit un État laïque, démocratique et non centralisé. Il sera pourvu d'une seule armée nationale, mais permet l'activité de groupes armés. Reste maintenant à composer ce gouvernement parallèle. Les négociations ont déjà démarré ici, à Nairobi, confie une source proche des signataires. Gaël Alex, Nairobi, RFI.
La rencontre avait lieu hier à Bamako, à la Maison de la Presse. Une conférence de presse justement menée par l'ex-premier ministre malien Choguel Maïga. Pour la première fois depuis son limogeage en novembre dernier, Choguel Maïga s'est adressé aux journalistes, profitant de l'occasion pour réitérer ses critiques contre la junte au pouvoir. Il l'accuse d'avoir rompu le pacte avec la coalition composée des partis politiques ayant participé à la chute de l'ancien régime. Correspondance régionale de Serge Daniel.
Rupture consommée entre la junte et les forces politiques de changement ayant travaillé ensemble pour la chute de l'ancien régime. C'est le principal message de Choguel Maïga lors de sa première rencontre avec la presse depuis son limogeage en novembre dernier. Il a rappelé avoir avalé les couleuvres alors qu'il était à la primature. Exemple, le chef de la junte, le général Assimi Goïta, ne l'associait pas, dit-il, à des prises de décisions importantes. Il pointe également du doigt des insubordinations de certains ministres apparemment téléguidés du palais présidentiel. Le navire de la transition Mali-Tang, estime l'ancien premier ministre Choguel Maïga.
Une sorte de spectre de confusion et d'amalgame plane sur la transition avec de véritables risques graves de remise en cause.
Et un peu comme si politiquement il trace désormais son propre sillon, Choguel Maïga prend une posture d'opposant et dénonce les arrestations extrajudiciaires avant de demander à la junte plus de rigueur et de transparence dans la gouvernance publique et la création des conditions pour un retour à l'ordre constitutionnel. Serge Daniel, Dakar, RFI.
Ibrahim Traoré et Mahamat Idriss Déby réunis hier à l'occasion de la 29e édition du FESPACO. Le Tchad est d'ailleurs l'invité d'honneur du festival de cinéma de Ouagadougou. Le président burkinabé et son homologue tchadien ont profité de cette rencontre, entre autres, pour passer en revue la coopération entre les deux pays. Sidi Yansané.
Après le tête-à-tête entre le capitaine Ibrahim Traoré et le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, les deux délégations ont tenu une séance de travail sur des sujets concernant l'avenir du Tchad et du Burkina Faso. Première nécessité et première urgence, la mise en place dans les meilleurs délais d'une commission mixte en vue de renforcer la coopération entre les deux pays sahéliens. Gilbert Ouédraogo est le ministre burkinabé de la communication.
Les deux chefs d'État se sont réjouis de leur convergence de vues sur les grandes questions qui touchent l'avenir de leur pays, notamment la quête d'une vraie souveraineté, la lutte contre le néocolonialisme, le développement de véritables capacités endogènes dans des domaines stratégiques et les défis sécuritaires.
Suite à cette rencontre, le chef de l'État tchadien s'est rendu au mémorial du capitaine Thomas Sankara, où il a déposé une gerbe de fleurs au pied du monument dédié au père de la révolution burkinabé, symbole d'émancipation et de liberté vivace dans toute l'Afrique, a déclaré le président Mahamat Idriss Déby Itno.
Le Burkina Faso et le Tchad, c'est une longue histoire et un destin partagé. Vivement pour une coopération agissante et mutuellement bénéfique sur les traces du chemin dessiné par Thomas Sankara.
Le président Traoré et son homologue Mahamat Idriss Déby se sont ensuite dirigés vers le FESPACO où ils ont tous les deux sonné le clap d'ouverture de la 29e édition du festival avec le Tchad comme invité d'honneur.
La précision signée Sidi Yansané. La Guinée équatoriale va fournir de l'électricité au Gabon. Les réseaux électriques des deux pays sont maintenant connectés à un raccordement qui prévoit notamment la mutualisation des infrastructures électriques à l'échelle sous-régionale. Par ailleurs, en Afrique du Sud, cette fois, l'électricité a été coupée dans une grande partie du pays aujourd'hui. L'approvisionnement est limité jusqu'à nouvel ordre en raison de multiples pannes survenues dans 3 centrales électriques au charbon. Le festival Abidjan Capitale du Rire se tient ce week-end, je vous le disais en titre, et cette année, l'événement créé par l'humoriste et chroniqueur Maman fête ses 10 ans. Au programme, notamment, 3 jours de spectacle. Et puis cet après-midi, l'artiste camerounais Docta Kevin recevra son prix RFI Talent du Rire 2024. Cette édition 2025 sera aussi l'occasion de remettre en valeur des artistes qui ont émergé lors des 10 dernières années. Binta Diagne.
À l'origine, ce festival vise à donner une scène pour les humoristes du continent. Initiateur de cet événement, l'humoriste nigérien Maman pense naturellement à Abidjan, où la culture du rire est déjà bien ancrée dans la société. On est alors en 2012, au lendemain de la crise post-électorale. Maman.
Tous les gens étaient partis, les techniciens, les comédiens qui pouvaient. Tous les festivals qui existaient avant s'étaient arrêtés, faute de moyens.
Le festival trouve rapidement ses marques et relance une expertise technique au niveau local, comme le constate Catherine Guérin, productrice de Gondwana City.
En 10 ans, les spectacles sont mieux organisés. On fait appel à des prestataires qui sont désormais locaux et formés pour faire de la création lumière, pour faire des régies plateaux, enfin tout cet écosystème autour du monde du spectacle.
Si à 60 ans dépassés, eux ils dansent comme ça là. Nous pour nous là, mais ça sera comment?
En 10 ans, de nombreux talents ont été révélés sur cette scène et Maman observe par ailleurs un changement de profil des artistes.
Avant c'était réservé à une couche populaire. Je vois le profil sociologique des humoristes, des candidats à ce métier changer. Il y a des gens qui viennent de la classe aisée, il y a des étudiants, il y a des gens qui travaillent.
Cet après-midi, plusieurs humoristes s'affronteront autour d'une battle sur le thème « Les riches contre les pauvres », ce face-à-face en danse et en chant, et surtout l'occasion de faire la promotion du vivre ensemble dans la société. Binta Diane, Abidjan, RFI.
Abidjan, où il est 12h45, une heure de plus ici à Paris.
Afrique Midi, Simon Bourtembourg.
La deuxième partie d'Afrique Midi avec vos chroniques du dimanche dans quelques instants. La poésie à l'honneur avec Tirthankar Chanda qui nous replonge dans l'œuvre de l'auteur zimbabwéen Dambudzo Mareshera. L'Afrique en marche à suivre au cœur de la mêlée. La semaine prochaine, l'Académie du Stade Toulousain, le club le plus titré d'Europe, propose donc à Abidjan un entraînement aux jeunes joueurs et à leurs éducateurs. Et puis, à suivre également 100% création ce midi consacré aux créateurs d'objets en verre. C'est un recueil posthume de poèmes qui est au menu de la chronique littéraire de ce dimanche. Des textes de Dambudzo Mareshera rassemblés dans Cimetière de l'Esprit ou comment redécouvrir le parcours de l'auteur zimbabwéen disparu en 1987. Mareshera, une personnalité mythique des lettres africaines contemporaines dont vous nous parlez ce midi, Tirthankar Chanda. Bonjour.
Bonjour à tous et à toutes.
Vous avez donc choisi d'ouvrir cette chronique en nous faisant écouter la poésie de Mareshera.
En effet, « Engager mon âme » est sans doute l'un des plus beaux poèmes de cet auteur. C'est un poème sur la nostalgie de l'enfance. Voici la première strophe.
« Quand j'étais enfant, j'escaladais tes seins de granit, doux et rond. Je glissais mon corps du creux de terrain à ta nuque souple. La rondeur de tes seins me servait d'oreiller, la rivière de tes larmes me faisait couler dans tes profondeurs, et la douce plaine de ton ventre plat cédait au mien. J'étais à toi, tu étais à moi. »
Ces quelques vers ne sont pas sans rappeler la célèbre « femme nue, femme noire » de Senghor, mais sans peut-être ce côté mièvre et romantique du poète de la négritude. Comme le rappelle le titre du recueil « Cimetière de l'esprit », les ténèbres aussi guettent ses pages, tout comme dans l'œuvre fictionnelle de Mareshera.
À deux mots peut-être sur cette œuvre fictionnelle pour situer l'écrivain.
Dambudzo Mareshera est l'auteur de trois romans, dont « La maison de la faim » publié en 1978. Ce sont des romans avant-gardistes, inspirés du flux de conscience à la Joyce. Ils sont imprégnés de la vie déstructurée que l'écrivain a connue. Rappelons que son comportement anarchique lui avait valu d'être expulsé des lycées et des universités qu'il fréquentait, notamment d'Oxford, où on l'a accusé d'avoir tenté de mettre le feu à un bâtiment universitaire.
Et comment Mareshera vient-il à l'écriture ?
Au dire de l'auteur, la littérature et la lecture furent son refuge. Issu d'un milieu modeste, Mareshera a grandi dans la pauvreté et des privations, dans la Rhodésie coloniale. Ils l'ont marqué pour la vie, comme le rappelle son traducteur Xavier Garnier.
Dambudzo Mareshera est un auteur qui a beaucoup souffert. Il a eu une enfance extrêmement difficile. Il a été traumatisé par la mort de son père qui est mort dans des conditions atroces. Et il a pu voir son cadavre dans un accident de camion. Il a porté cette douleur, je pense, toute sa vie. Et la littérature, la poésie a été vraiment ce qui l'a fait tenir. Et plus que ça, cette opération poétique qu'il a réussi à faire, c'est de transformer ce noyau en quelque chose de vital. De ce trauma qui est nodal dans sa poésie que va naître ces éclats de vie que sont ses poèmes.
Tirthankar, tout n'est donc pas si sombre dans le recueil « Cimetière de l'esprit ».
En effet, plusieurs nuances d'inquiétude et de noirceur habitent ces pages, marquées par une diversité de thèmes et de sensibilités. Ce recueil est composé de 12 cahiers et compte plus de 150 poèmes rédigés entre 1976 et 1987. Rassemblés par sa compagne et biographe Flora Weidwild, ces poèmes sont organisés selon les thèmes de prédilection du poète Xavier Garnier.
Des thèmes, oui, il y en a, on peut en identifier beaucoup. Il y a une poésie érotique qui est magnifique. Il a vraiment, dans le rapport aux femmes, quelque chose qui est d'une extrême sensibilité, une extrême tendresse, une extrême émotion. Et en même temps, il est capable de raconter des scènes très crues et très violentes. Il y a une poésie urbaine aussi, dont le grand texte « Trône de baïonnette » est une traversée de la ville d'Harare par un Mareshera qui est d'une certaine façon un SDF.
C'est une poésie qui est aussi à la fois une poésie très éthérée et très mystérieuse.
Pierre Leroux.
Et en même temps une poésie que l'on peut toucher au ras du sol. Il est littéralement couché dans un fossé à raconter son expérience. Et pour moi, c'est aussi un des éléments importants de sa poésie.
Pour Dambudzo Mareshera, comme il l'a dit dans ses interviews, sa poésie parle de la déroute du réel, pour s'abriter dans le royaume de l'émotionnel et de l'imaginaire où l'être humain se spiritualise. La poésie comme quête spirituelle sera le thème du second volet de cette chronique, diffusée la semaine prochaine en compagnie des deux traducteurs de Marie Chéra qui sont Pierre Leroux et Xavier Garnier.
Et à Tirtan Karchanda, à réécouter et à lire quand vous le voulez sur notre site et notre application. Les principaux titres de l'actualité de ce dimanche 23 février avec en Allemagne les élections législatives. Le scrutin va doter la première puissance européenne d'un nouveau parlement. Friedrich Merz de la droite semble en tête. Vladimir Poutine veut renforcer son armée avant le troisième anniversaire demain de l'assaut contre l'Ukraine. Le président russe se montre de plus en plus hostile à l'égard de l'Ukraine au moment où Moscou et Washington négocient la tenue d'un sommet pour la paix. Et puis le Hamas accuse Israël de mettre en péril la trêve à Gaza. L'État hébreu continue de bloquer la libération de prisonniers palestiniens. L'Afrique en marche ce mercredi et pour marquer un maximum d'essais, cap sur la Côte d'Ivoire où le Cocody Rugby Abidjan Club va bénéficier d'un sacré coup de pouce pour la formation de ses jeunes talents. Dès demain, l'Académie du Stade Toulousain débutera un stage d'une semaine auprès du club abidjanais. Frédéric Gara a tendu son micro à la légende du rugby français Émile Ntamak, aujourd'hui directeur du Stade Toulousain Académie.
L'Afrique en marche.
Bonjour, ben vous êtes avec Émile Ntamak en direct du Stade Toulousain. Sous le beau soleil toulousain, pratiquez un joli rugby.
Elle est enthousiaste, la légende du rugby français et toulousain. L'ex-joueur Émile Ntamak, devenu directeur de la Stade Toulousain Academy, propose avec ses compères formateurs des stages avec des clubs un peu partout dans le monde. Et cette semaine, ce sera avec le crack d'Abidjan. Le Cocody Rugby Abidjan Club, un club dont l'un des fondateurs est Emmanuel Henao, honoré et ravi d'accueillir pendant une semaine les formateurs toulousains qui vont prodiguer leur savoir aux jeunes Ivoiriens et à leurs encadrants.
C'est à la fois une étape magnifique du travail fourni, de notre capacité aussi à être prise au sérieux. Je dis souvent à mes joueurs, à mes joueuses, qu'on doit se prendre au sérieux pour que les gens nous prennent au sérieux. Et c'est évidemment pour nous une espèce de consécration. Et puis en même temps, c'est un point de départ. Parce qu'on se dit qu'on est parti peut-être pour 3 ans de partenariat avec eux. Donc effectivement, c'est une magnifique consécration et la notoriété et le prestige du Stade Toulousain. On est reconnu et en fait, voilà, on peut aller chercher les meilleurs.
S'améliorer, échanger, renforcer les techniques de jeu et d'entraînement, ce sont autant de choses que transmettra la Toulouse Academy pendant cette semaine de stage, supervisée par Émile Ntamak, qui n'était pas revenu en Côte d'Ivoire depuis fatigué, comme on dit, à Abidjan.
Ouf, j'étais tout petit, donc c'était il y a presque 54 ans. J'y suis déjà venu tout petit, mon père est du Cameroun originaire, donc petit on avait voyagé au Cameroun et en Côte d'Ivoire. J'avais un tonton qui travaillait là-bas, mais j'ai très 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 peu de souvenirs et c'est pour ça que je suis ravi d'y revenir.
Revenir en Côte d'Ivoire pour un stage qui devrait porter ses fruits.
Alors, ça porte ses fruits. Oui, on voit des éducateurs qui ont plus de billes pour être plus à l'aise, pour pouvoir encadrer les jeunes, plus de variété, plus d'ateliers, plus d'exercices, donne plus de sens dans ce qu'ils mettent en place sur le travail pour les enfants. Après, c'est pas pour autant qu'on a eu depuis sorti 3 joueurs internationaux, c'est pas le but. C'est d'être en phase avec ce qu'on fait. Quand on fait une pratique, on est passionné. Quand on a des personnes qui nous accompagnent pour mettre en place ce genre d'activité, eh ben, si tu le gères comme ça, ça ira mieux. Ben, on est tous friands de ça. Et c'est ce qu'on a proposé. Et ils sont plus à l'aise. On voit que les joueurs sont plus enthousiastes, s'amusent plus parce que finalement, il y a plus de rythme, plus de dynamisme, plus de jeu. Et forcément, ça entraîne les enfants à être plaisants dans l'activité. Si déjà les enfants sont heureux de la pratique du rugby et reviennent de plus en plus nombreux, ça, c'est un signe déjà de progression.
Une progression que vise également Ismaël Essani. Il est formateur à l'Académie Toulousaine.
Le but, c'est de créer un pont entre les deux institutions où on puisse derrière faire effervescence des différents projets qui peuvent être liés aux jeunes enfants, qui peuvent être liés à un groupe d'adultes qui souhaitent venir voir le niveau en France, à Toulouse, ou des clubs autour et pourquoi pas ailleurs. Mais le but, c'est justement de laisser un pont entre les deux entités pour pouvoir favoriser l'échange.
Ces échanges entre clubs de rugby français et le crack d'Abidjan ont ainsi permis à Jonathan Ange Dongo, 22 ans, de poursuivre ses études en finance et sa passion pour le rugby. Il est en sport études en France à Niort, en Fédéral 3 Espoir.
Je pense que c'est au travers de ces différents clubs comme le crack qui ont la volonté de faire progresser les joueurs ivoiriens et le rugby ivoirien en général que nous, joueurs de ces différents clubs-là, nous arrivons à avoir la chance d'avoir de telles opportunités. C'est vraiment un truc qui a commencé il y a vraiment longtemps, peut-être depuis même la création du CRAC en 2015. Et Dieu merci, il y a eu la matérialisation maintenant de ce genre de projet. C'est un pas que tous les autres clubs ont commencé à emboîter pour favoriser l'essor et le développement du rugby ivoirien.
Et il est immense le potentiel rugbystique ivoirien. Ce n'est pas tout à fait un hasard si l'un des grands capitaines de l'équipe de France, un certain Thierry Dussautoir, est originaire de Divo, dans le district du Gojiboua.
L'Afrique en marche.
Taper le ballon avec le groupe ivoirien Limirix pour refermer l'Afrique en marche, consacrée donc à l'Ovalie ivoirienne. Place à 100% création, consacrée ce midi aux créateurs d'objets en verre. Le soufflage, la gravure et la peinture sur verre pour donner vie à des luminaires ou encore du mobilier, le tout en petite série ou pour des pièces uniques. Maria Afonso a rencontré Mélanie Garcia et Justin Emery, un duo créatif qui fusionne passion et savoir-faire.
On a étudié de nombreuses techniques du verre. Et nous, ce qu'on voulait vraiment réaliser dans notre atelier, c'est avoir beaucoup de techniques pour créer des pièces où on rassemble toutes ces techniques pour tous les horizons du verre.
Et on rentrait du Québec et il y avait aussi les horizons de vie, vu qu'on venait de passer quand même 3 ans à l'étranger. Il y avait aussi cet aspect par rapport à notre vie, enfin, un gros côté professionnel, on va dire, et puis aussi un petit côté personnel.
Mélanie Gracia et Justin Emery, cofondateurs de l'atelier Horizon Vert. Mélanie Gracia a suivi une formation en art appliqué avant de se spécialiser dans le verre en France et au Québec. Elle s'inspire des textures et des formes naturelles pour créer des œuvres qui invitent à la réflexion sur la relation entre l'homme et son environnement. Elle utilise diverses techniques pour réaliser des œuvres poétiques et symboliques. Justin Emery, quant à lui, après son parcours académique en France et 3 années d'études au Québec, s'inspire de la nature. Il cofonde l'atelier Horizon Vert avec Mélanie Gracia et ses créateurs verriers partagent la passion du verre. Leur processus créatif est à la fois individuel et collectif. Mélanie Gracia.
Pour l'instant, on a chacun un peu nos gammes. Après, c'est sûr qu'on s'inspire, on se questionne mutuellement sur est-ce que ça va, qu'est-ce que t'en penses, tout ça. On s'aide à l'atelier, on travaille sur les mêmes pièces. Après, l'idée fixe de base, elle part un peu de l'un et l'autre. Mais on voudrait faire des projets vraiment ensemble, où là, on réfléchit de A à Z ensemble à une pièce en commun.
L'atelier Horizon Vert est un lieu où Mélanie et Justin utilisent d'autres matériaux, comme le métal et le bois, pour élargir leur champ d'expression artistique. Justin Emery.
C'est exaltant de travailler d'autres matériaux et puis peut-être un peu moins, entre guillemets, ennuyant que d'être tout le temps bloqué sur un seul et même matériau. Et donc, inclure d'autres matériaux, ça permet d'avoir d'autres textures, ça permet de travailler le métal. C'est-à-dire que je vais faire du verre pendant un mois, puis je vais avoir une semaine de métal, 2 semaines de bois. Ça aussi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et puis, d'un point de vue visuel, c'est les matériaux qui se mélangent, c'est les textures, les contrastes, toutes ces choses-là.
Retrouvez l'univers de l'atelier Horizon Vert sur RFI.fr chronique 100% création et en podcast sur RFI Pure Radio.
Maria Afonso pour refermer cette édition d'Afrique Midi, réalisée par Michael Goncalves. Karine Franck était à la rédaction en chef avec Thomas Yayani. Merci à eux. Merci à vous aussi d'être à l'écoute de la Radio du Monde. À suivre le journal en français facile, international en français, sauf en Afrique de l'Ouest, où vous attendent 30 minutes d'informations consacrées cette fois en full day. Et puis en Afrique lusophone, ce sera une demi-heure en portugais. Restez bien à l'écoute.
Priorité santé. Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Demain,
Mpox, Ebola, grippe aviaire, état des lieux des maladies infectieuses et émergentes.
Mardi,
prendre soin de ses genoux.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI. BPM. Bonne pulsation du monde avec Hortense Vol.
Cette semaine, les artistes sont à l'honneur, qu'elles soient soudanaises, danoises, guinéennes ou guadeloupéennes, qu'elles s'illustrent dans l'électropop, la folk, le rap ou le dancehall, elles vont nous faire part en chanson de leurs préoccupations. Êtes-vous prêts seulement ?
Bonne pulsation du monde.